Je remercie les organisateurs pour l'invitation qui m'a été adressée. Sans cette invitation, je n'aurais aucun titre à me présenter au milieu de vous parce que je n'ai aucune compétence en matière de sciences physiques. Les quelques souvenirs que j'ai datent de mes études du baccalauréat, datent de plus de 40 ans. Et même si c'était la session sciences expérimentales, comme on l'appelait à l'époque, ce sont des données qui sont quand même très élémentaires, et je n'ai même pas l'avantage d'être un amateur éclairé. Je suis un profane entièrement dans le domaine. Je voudrais vous inviter à écouter la lecture du texte qui est proposé pour notre méditation de ce matin. Job, chapitre 28. Il y a un endroit pour extraire l'argent et un lieu pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et la pierre fendue produit le bronze. On met fin aux ténèbres, on explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de mort. On creuse un ravin loin des lieux habités. Le pied ne leur vient plus en aide. Ils sont suspendus, balancés, loin des hommes. La terre d'où provient le pain est dans ses profondeurs retournée comme par un feu. Ces pierres sont le lieu du lapis lazuli. C'est là qu'est la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du faucon ne l'a pas vu. Les plus fiers animaux ne l'ont pas foulé. Le lion n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur le granit. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil voit tout ce qui est précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Il amène à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où donc est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix, elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit « elle n'est pas en moi » et la mer dit « elle n'est pas chez moi ». On ne peut l'obtenir contre de l'or pur, ni l'acheter pour un poids d'argent. On ne met pas dans la balance avec l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx, ni avec le lapis lazuli. Ni l'or, ni le verre ne peuvent lui être comparés. On ne peut l'échanger contre un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne peuvent même pas être évoqués. Posséder la sagesse vaut plus que les coraux. La topaze de couche ne peut pas lui être comparée. Et on ne la met pas dans la balance avec l'or pur. La sagesse, d'où vient-elle? Où donc est le lieu de l'intelligence? Elle est soustraite au regard de tout être vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le monde des disparus et la mort disent « Nous en avons entendu parler. » C'est Dieu qui en a discerné le chemin. Lui, il connaît son lieu. Car c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre. Il voit sous tous les cieux pour déterminer le poids du vent. Et il a fixé la mesure des eaux. Quand il donna une prescription à la pluie, une route à l'éclair et au coup de tonnerre, alors il l'a vu et il l'a compté. Il en a posé les fondements, il l'a même examiné à fond. Puis il a dit à l'être humain, « La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. » La science peut-elle être neutre? Le texte qui est proposé à notre méditation ne semble pas au premier abord répondre à la question posée, ni même l'évoquer. Et les exégètes, comme vous le savez, sont des gens qui mettent un point d'honneur, ça confine à la manie, à ne pas sortir le texte de son contexte, à ne pas le soumettre à la question pour lui faire dire ce qu'il ne voudrait pas dire. Si j'accepte d'aborder avec vous ce passage, c'est bien que je pense qu'il peut jeter quelques lumières sur la question qui nous occupe. Mais il nous faudra un peu de patience. Je vous propose d'aborder le texte dans son contexte, comme ça doit se faire en bonne exégèse, et puis de voir ensuite ce qu'il peut nous dire éventuellement sur la science et sur son rapport avec la foi. Ce chapitre est situé en plein milieu du débat qui oppose Job et ses amis. Et la question posée, celle qui tourmente, qui agite Job et ses amis, c'est celle des malheurs qui sont arrivés à Job. Un homme fidèle et juste s'il en est. Comment comprendre les malheurs du juste dans un monde que l'on croit gouverné par un Dieu qui est juste et souverain? Comment appréhender cette écharde dans la chair, ce scandale pour la foi? Job, en bon croyant qu'il est, a d'abord fait acte de soumission devant la gestion divine des gains et des pertes, du bonheur et du malheur. Mais ensuite, il exprime devant ses amis son profond désarroi. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il ne peut pas l'admettre. Pourquoi Dieu le traite-t-il ainsi? Ses amis cherchent d'abord à l'encourager, puisqu'il est juste. Son malheur ne peut être que passager. Et au lieu de se tourmenter, qu'il fasse confiance à Dieu. Dieu qui délivre le juste du malheur. Mais en voulant ainsi encourager leur ami, ils ne font qu'exacerber son trouble. Son mal n'est pas passager. Il a tout perdu. Il est gravement atteint. Il va mourir. Et Dieu ne le délivre pas. Il l'agresse. Voyant que Job ne se laisse pas encourager, qu'il persiste à se plaindre de Dieu, ses amis s'emploient à l'avertir, à le mettre en garde. Les propos qu'il tient ne sont pas ceux d'un croyant, ce sont les propos d'un impie. Qu'il prenne garde. Dieu va le punir s'il persiste dans cette voie. Et pour finir, voyant que même les avertissements ne parviennent pas à remettre Job sur la bonne voie, le premier des amis, Eliphaz, au chapitre 22, se risque à accuser Job. Si tu as été frappé par le malheur, c'est parce que tu as péché. Repens-toi et Dieu te rétablira. Le chapitre 28 est situé dans le débat au moment où il apparaît que les trois amis ont échoué dans leur tentative pour consoler, pour aider Job. Ni leurs encouragements, ni leurs avertissements, ni les accusations d'Eliphaz ne sont parvenus à apaiser le trouble de Job, à modifier son point de vue. Sinon peut-être à rendre Job encore plus déterminé dans son point de vue. Job, au début du chapitre précédent, le chapitre 27, affirme de la manière la plus solennelle qu'il persiste et signe. Écoutons-le, c'est pour lui une question d'honnêteté. Par la vie de Dieu qui écarte mon droit, de Shaddai qui me remplit d'amertume, tant que je respirerai, tant que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne diront pas l'injustice, ma langue ne murmurera rien de faux. Jamais, jamais je ne vous donnerai raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je ne renoncerai pas à mon intégrité. Les amis n'ont plus rien à répondre, et Job, resté seul en lice, va déployer une plaidoirie en règle dans les chapitres 29 à 31, cette plaidoirie qui commence justement par cette déclaration solennelle et qui se conclut par un serment d'innocence qui est soumis au jugement de Dieu. Voilà mon dernier signe, que Shaddai me réponde. Verset 35 du chapitre 31. Qui parle au chapitre 28? La question mérite d'être posée. Si l'on s'en tient à la dernière information donnée, l'information qui est donnée au début du chapitre 27, c'est Job. L'auteur prend toujours bien soin de nous signaler les différentes prises de parole. Il y a trois cycles de dialogue au chapitre 4, du chapitre 4 au chapitre 26, et à tour de rôle, comme vous le voyez sur le tableau, que vous avez eu l'occasion de regarder depuis un petit moment maintenant, à tour de rôle, chaque ami prend la parole et reçoit une réponse de Job. La seule irrégularité dans cet agencement symétrique, c'est l'absence d'un troisième discours du troisième ami dans le troisième cycle. Mais cette absence, elle a déjà été amorcée par l'extrême brièveté du discours du second ami, Bildad. Cette absence souligne l'échec des amis. Ils n'ont plus rien à dire. L'introduction du chapitre 27:1 signale une nouvelle phase dans le débat. Job continua à soutenir son point de vue. Au chapitre 26, c'est Job qui parlait. Au chapitre 26, c'est Job qui parlait déjà, mais il répondait à Bildad. Job répondit, comme ça que son discours est introduit. À partir du chapitre 27, Job ne répond plus spécifiquement au discours de l'un de ses amis, comme il l'avait fait jusqu'à présent, mais il soutient son point de vue. Et une nouvelle introduction au début du chapitre 29, qui est identique à celle du chapitre 27, Job continue à soutenir son point de vue, le rappelle au lecteur. Mais justement, si le début du chapitre 29 précise que c'est Job qui parle, et de la même manière qu'il parlait au chapitre 27, comme le contenu du chapitre 28 tranche sur les propos de Job, les propos de Job dans tout le débat, et aussi particulièrement, notamment dans les chapitres 27 et puis 29 et suivants, l'auteur, qui n'est pas avare des précisions concernant les locuteurs, vous voyez qu'il nous dit au chapitre 26 que c'est Job qui parle, il le dit au chapitre 27, il le dit au chapitre 29, et puis quand va arriver un quatrième personnage, Eliou, par quatre fois il va mentionner que c'est Eliou qui parle. Donc il n'est pas avare d'indications de ce genre. Si c'était Job qui parlait au chapitre 28, on pourrait s'attendre à ce qu'il nous le signale. Ce chapitre, en effet, prend singulièrement du recul, de la hauteur, par rapport au problème qui est débattu par les sages. Dans ce chapitre, il n'est question ni des malheurs de Job, ni de ses protestations d'innocence, ni de ses plaintes à Dieu, ni même de manière plus générale des malheurs du monde ou de la justice de Dieu. Il n'est donc pas impossible, je dirais même qu'il est plausible, que ce chapitre ait été placé là par l'auteur pour amener le lecteur, qui est plongé dans ce débat intense et souvent violent qui agite les personnages du drame, pour inviter le lecteur à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Où trouver la sagesse? Deux indices peuvent encore être relevés. Dieu, dans le chapitre 28, est nommé Elohim au verset 23 ou Seigneur Adonai au verset 28. C'est d'ailleurs le seul emploi de Adonai. Je précise, c'est pas le tétragramme, c'est Adonai, le Seigneur. Les Juifs ont prononcé le tétragramme Adonai, mais dans le texte, il y a les consonnes de Adonai, non pas les consonnes de Yahvé. C'est le seul emploi dans tout le livre de Job. Alors que les personnages dans le débat nomment Dieu Eloi ou Shaddai. Eloi qui est la forme au singulier de Elohim, et puis Shaddai qui est un nom de Dieu caractéristique de l'époque des patriarches. Ni l'un ni l'autre de ces deux noms, Eloi et Shaddai, n'apparaissent dans ce chapitre, alors qu'ils sont utilisés habituellement par Job lorsqu'il parle de Dieu, et notamment dans les chapitres qui entourent le chapitre 28. Dans le chapitre 27, il y a trois mentions d'Eloi. Dans le chapitre 29, il y a deux mentions d'Eloi. Dans le chapitre 27, il y a deux mentions de Shaddai. Et dans le chapitre 29, il y a une mention de Shaddai. D'autre part, la conclusion du verset 28 reprend mot pour mot la description de Job figurant dans le prologue. Job est un homme qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. C'est dit trois fois dans le prologue, par le narrateur et deux fois par Dieu, lorsqu'il s'adresse à l'adversaire. Et la conclusion du prologue nous dit la crainte de Dieu. Voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Ce trait révèle plutôt l'auteur du prologue, c'est-à-dire l'auteur du livre, intervenant directement, plutôt que le personnage de Job. Cette particularité du chapitre 28 a été bien repérée par la plupart des spécialistes, et certains en tirent la conclusion que ce chapitre aurait été malencontreusement rajouté par un éditeur plus récent qui n'aurait pas bien compris le message du livre ou qui aurait cherché à en atténuer le caractère subversif. Il est bien imprudent de formuler de tels jugements sur un élément du texte qui ne manque dans aucun témoin ancien, et on s'expose plutôt soi-même à être celui qui comprend mal ou qui cherche à infléchir le message du livre dans le sens qui lui convient. Au milieu d'un débat passionné qui laisse les protagonistes sans réponse satisfaisante avec leurs troubles, cette réflexion sur la sagesse introuvable, une sagesse qui n'est accessible aux humains que sous la forme de la crainte du Seigneur et du rejet du mal, ne manque certainement pas de pertinence. Ce chapitre 28 est construit comme une énigme dont on ignore au départ le sujet. Il faut attendre très longtemps, il faut attendre le verset 12 pour comprendre sur quoi porte l'énigme. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où donc est le lieu de l'intelligence? La question est reprise comme un refrain au verset 20 avec une légère variante, mais la sagesse, d'où vient-elle? Où donc est le lieu de l'intelligence? Et ce n'est qu'au tout dernier verset du poème, et de manière assez inattendue, très inattendue on pourrait dire, que vient la réponse. Dieu a dit à l'être humain, la crainte du Seigneur. Voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. Dans les 11 premiers versets, l'auteur nous entraîne dans une description fascinante et déroutante de la technologie des mines pour extraire du sol les métaux précieux, l'argent, l'or, le fer. Aux époques anciennes, le fer est aussi un métal précieux. À l'époque, il apparaît commun, mais on parle du roi du lit du roi Og de Bazan, et on nous dit que c'était un lit de fer. Donc c'est quelqu'un qui avait un lit en métal précieux. La description est d'autant plus déroutante qu'on ne sait pas où l'auteur veut en venir. Il nous fait descendre dans les entrailles de la terre et on se demande, mais où nous mène-t-il? Il évoque des exploits techniques, comme le percement de galeries, comme la descente acrobatique dans des puits, probablement aussi le détournement de cours d'eau souterrains. Et en plus, il le fait dans le langage de la poésie, ce qui ne facilite pas la compréhension. Le livre de Job est déjà, de tout l'Ancien Testament, celui dont la langue pose le plus de problèmes. Et certains versets de ce chapitre 28 défient la compréhension, notamment le verset 4. Je vous en livre le mot à mot. On a coupé un torrent d'auprès du résident. Les oubliés du pied sont suspendus. De l'homme, ils sont balancés. Alors, les traducteurs, évidemment, doivent nous proposer quelque chose de plus intelligible, mais vous comprendrez que ça relève plus de la devinette que de la certitude. Nous aussi, nous sommes suspendus et balancés, oubliés. Je ne sais pas trop comment faire avec ce verset. Quand on arrive au verset 12, on comprend pourquoi l'auteur nous a fait descendre à la mine. Car le verset 12 reprend deux mots-clés du verset 1. Il y a pour l'argent une trouvaille, je mets le mot entre guillemets parce que ce n'est pas le sens du mot en français, mais il y a le verbe trouver à la racine du mot, c'est l'endroit où on peut trouver. Et un lieu pour l'or que l'on raffine, à quoi répond le verset 12, mais la sagesse, où la trouve-t-on ? Et où est le lieu de l'intelligence ? L'être humain est capable, grâce à des prouesses techniques remarquables, d'extraire du sol des métaux précieux, mais la sagesse, nul ne sait où la trouver. Et l'auteur s'emploie à exalter ces performances humaines qui le distinguent des animaux les plus nobles et les plus performants. Il pénètre des domaines que les oiseaux n'ont pas vu. Les oiseaux qui pourtant bénéficient d'une vision aérienne. À l'époque, ce sont les seuls à pouvoir voir la Terre d'en haut. Et ils ont également un œil perçant comme celui de l'aigle. Et le lion lui-même n'a pas pénétré, ne s'est pas aventuré dans ces domaines. Et l'amplification poétique donne même à cette activité humaine une dimension prométhéenne. L'homme renversait les montagnes depuis la racine. Mais ce déploiement impressionnant de technologie est impuissant pour exploiter la sagesse. On ne sait même pas où la trouver. On voit ici se dessiner une première conclusion concernant la science humaine. Si performante qu'elle soit, elle ne permet pas de trouver la sagesse, de déterminer son lieu, de la maîtriser, comme on arrive à maîtriser ces divers domaines matériels. Et si l'auteur du livre de Job vivait aujourd'hui, que ne pourrait-il pas décrire comme prouesse technique ? Il n'aurait que l'embarras du choix, conquête spatiale, séquençage du génome, la traque du boson de Higgs dans les anneaux du CERN. La maîtrise technique de l'être humain est devenue prodigieuse et elle apporte la preuve manifeste que les sciences physiques ne sont pas une forme de solipsisme, une construction logique qui tournerait sur elle-même. C'est là un acquis incontestable de la science moderne. Mais si l'on a pu croire un temps, et peut-être surtout à la fin du XIXe siècle, que le progrès scientifique et technique apporterait avec lui le progrès humain, le XXe siècle a apporté un tragique démenti à ses espérances. Non seulement le progrès technique ne réalise pas les résultats, ne permet pas d'obtenir les résultats que l'on espérait, résoudre les problèmes dont on espérait la solution, mais en plus, il en crée de nouveaux et de terriblement redoutables. L'espoir de pouvoir construire une philosophie, une morale, voire une spiritualité sur les fondements sûrs, rationnels de la science, s'est révélé illusoire. Plus les sciences et leurs applications techniques dépassent ce que pouvait décrire l'auteur biblique au début de son poème, et plus l'interrogation qui suit gagne en pertinence la sagesse. Où la trouve-t-on ? Cette première conclusion se dégage incontestablement du texte. Elle est capitale quant au rapport de la science physique avec les autres domaines de la pensée et de l'activité humaine, mais elle ne répond pas encore à notre question : la science peut-elle être neutre ? Je vous invite à passer rapidement sur la seconde partie du poème, les versets 13 à 19, qui souligne que la sagesse a infiniment plus de valeur que les objets les plus précieux, pour nous intéresser à la dernière partie qui conduit à la conclusion, à la clé de l'énigme. La sagesse, c'est de craindre le Seigneur, s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Cette conclusion nous met en présence d'une décision divine. Dieu a dit à l'être humain, une décision qui valorise la piété, craindre le Seigneur, et la morale, s'écarter du mal. Et cette conclusion semble mettre totalement hors jeu la science et la technique, comme si la science et la technique n'avaient été mentionnées au début du poème que pour dire qu'elles ne permettaient pas de découvrir la sagesse et que la sagesse avait infiniment plus de valeur que tous les objets que la science et la technique permettent d'acquérir. Le livre des Proverbes dit « La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance et de la science », Proverbe 1, verset 7, ce qui place déjà la science dans une position de dépendance par rapport à la piété. Mais Job 28 est encore plus radical. Il tend à réduire la sagesse à la piété et à la morale. La sagesse, c'est de craindre Dieu. Comme si Dieu, un peu comme si Dieu disait à l'être humain, tu n'es pas capable de découvrir la sagesse, tu n'es pas capable de comprendre le monde. N'oublions pas que Job et ses amis butent sur une énigme douloureuse qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Tu n'es pas capable de résoudre les énigmes de la vie. Et voilà au moins une chose que tu peux faire, et une chose qui t'est assignée par Dieu, le craindre et t'écarter du mal. Vu ainsi, le poème opposerait deux conceptions différentes de la sagesse. La sagesse comme réflexion, comme investigation, comme capacité de comprendre le monde. Et de l'autre côté, la sagesse comme piété et morale. Et le poème récuserait l'une de ces conceptions de la sagesse au profit de l'autre. Ce qui d'ailleurs fait dire à certains, c'est toujours les mêmes, que le verset 28 ne peut pas être un élément authentique du poème, donc le chapitre 28 ne fait pas partie du livre de Job et le verset 28 ne fait pas partie du chapitre 28, car il aurait été rajouté là par un éditeur qui aurait voulu ainsi donner un coup de pouce en faveur de la piété et de la morale qu'il estimait malmenée dans le reste du livre de Job et dans ce chapitre en particulier. Ce chapitre qui serait resté à l'origine sur cette interrogation, où trouver la sagesse, sans proposer de réponse ou en affirmant que Dieu seul le savait. La pensée qui est développée dans le poème est certainement plus subtile que cela. Certes, l'auteur ramène l'être humain incapable de trouver la sagesse à la piété et à la morale. C'est indéniable. Mais il est intéressant d'observer la façon dont l'auteur traite la question de la présence ou non de la sagesse dans le monde. Une question qui ne peut pas ne pas intéresser le scientifique, je pense. Celui qui scrute le réel pour en découvrir le mécanisme. La sagesse est-elle absente du monde ? Comme le suggèrent les versets 13 et 14, elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas chez moi. Et la mer a dit, elle n'est pas avec moi. On ne la trouve ni sur la terre, ni dans la mer, ou peut-être bien être, est-ce qu'elle est dans le ciel? Ou alors, la sagesse est-elle simplement invisible, cachée? Elle serait là, mais on ne pourrait pas la voir, comme le suggère le verset 21. Elle est soustraite au regard de tout être vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Pour l'instant, on en reste avec cette question. La sagesse, absente, ailleurs dans le monde, que dans le monde, invisible. Mais quand on en vient à parler de Dieu, à partir du verset 23, la question du lieu réapparaît. Et cette fois-ci, de manière positive, Dieu, lui, a discerné son chemin, c'est-à-dire le chemin qui permet de la trouver. Et lui, il connaît son lieu. On retrouve ce mot-clé du poème. Il y a un lieu pour l'or. Où est le lieu de l'intelligence? Dieu, lui, sait le lieu de la sagesse. Et les choses se précisent dans le verset suivant. Si Dieu connaît le lieu de la sagesse, c'est parce qu'il a une vision globale du monde. Son regard porte jusqu'aux confins de la terre. Et il voit sous tous les cieux, nous dit le verset 24. Si la sagesse était vraiment hors du monde, il ne servirait à rien d'être capable de scruter ainsi le monde. Et le verset 27 affirme clairement qu'à un moment donné, Dieu a vu la sagesse. Le verset 27 nous dit « Alors, il l'a vu ». Et ce moment, c'est le moment de la création. C'est lorsque Dieu a donné une règle à la pluie et un chemin à l'éclair. C'est alors qu'il a vu la sagesse. Cette description de Dieu discernant le chemin de la sagesse, découvrant en quelque sorte la sagesse, beaucoup de lecteurs croyants ont eu et ont de la peine à s'y faire. Représenter Dieu découvrant la sagesse, est-ce que cela n'implique pas qu'elle serait extérieure à lui, alors que la sagesse ne peut venir que de Dieu, dira le croyant. En dehors de Dieu, il ne peut pas y avoir de sagesse. Pourtant, c'est bien ainsi que la fin du chapitre nous présente les choses. Dieu a discerné son chemin, dit le verset 23, et l'ordre des verbes au verset 27 décrit de manière incontestable une forme de découverte. Il l'a vu, il l'a répertorié, il l'a établi et il l'a même sondé. Alors, ce verset présente quelques difficultés. Le sens du second verbe est difficile à cerner. Est-ce que le verbe signifie compter, c'est-à-dire faire le compte, répertorier, raconter, ou raconter, proclamer, ce sont des sens possibles du même verbe. Et puis, l'ordre des quatre verbes pose également un problème. Les trois premiers marquent une séquence progressive, voir, répertorier, établir. Mais le dernier revient en arrière en évoquant un examen approfondi qui suit la vision, il l'a vu, mais qui devrait logiquement précéder l'action de répertorier et surtout d'établir. Avant d'établir une chose, il vaut quand même mieux l'avoir bien examinée. La solution préférable, me semble-t-il, pour résoudre ce problème posé par l'ordre des quatre verbes, c'est de considérer qu'en effet, ce dernier verbe, renforcé par l'adverbe « aussi », revient bien en arrière pour souligner la phase de perception, la phase d'examen, qui est l'élément déterminant de la description. Que Dieu ait répertorié la sagesse qu'il l'ait ou proclamé, qu'il l'ait établi, ça n'a rien d'original, mais que Dieu l'ait vu et qu'il l'ait examiné, voilà ce que l'auteur veut souligner. Alors que le croyant se rassure, il ne s'agit pas d'imaginer une sagesse extérieure à Dieu, parce que c'est en voyant ce qu'il fait que Dieu voit, découvre, si l'on peut dire, la sagesse. Ce sont les mécanismes de la météorologie mis en place par Dieu, décrits comme une règle imposée à la pluie, décrits comme un itinéraire prescrit à l'éclair, qui lui font percevoir la sagesse. Et on trouve ici quelque chose de l'appréciation de Dieu dans le récit de la création, l'appréciation qu'il porte sur son œuvre, lorsqu'il la voit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que cela était bon, c'est redit deux fois encore, et encore en conclusion, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. L'auteur, qui s'était employé au début de son poème à décrire les prouesses techniques humaines qui ne lui permettent pas pour autant de découvrir la sagesse, se plaît à évoquer ici les prouesses techniques divines inscrites dans la nature. Dieu détermine le poids du vent. Comment peser un élément qui ne se voit même pas? Dieu a réglé avec une mesure les eaux, verset 25. Et l'emploi de deux termes correspondants qui sont empruntés à l'activité humaine banale, poids et mesure, suggère que Dieu maîtrise parfaitement ces phénomènes qui dépassent la compréhension humaine. Il a fait une règle pour la pluie, il a tracé un itinéraire pour l'éclair. La description de ces phénomènes dans le poème implique d'ailleurs que Dieu n'est pas seul à percevoir la sagesse qui émane de l'agencement du monde. L'auteur, lui aussi, l'aperçoit. Et il la donne à percevoir au lecteur. Et la science qui, sous la forme de la prouesse technologique, se trouvait disqualifiée pour amener à la sagesse, pas que la prouesse technologique soit contestée ou qu'elle soit diabolisée, elle est seulement inapte pour trouver la sagesse, la science retrouve ici une légitimité comme contemplation des prouesses techniques divines. Et par rapport à l'ensemble du livre, on apparaît ici une anticipation des grands discours du Seigneur qui mettront fin au débat en évoquant en long et en large les curiosités astronomiques, météorologiques et surtout zoologiques du monde. La science est-elle neutre? Ce chapitre du livre de Job invite d'abord à la confiance en Dieu, à la piété, à la morale. Que l'on soit scientifique ou non, il n'y a rien de plus important. La relation avec Dieu détermine toute notre existence, présente et future. Et la première mission d'un scientifique chrétien, comme de tout chrétien, c'est de croire, c'est d'aimer le Seigneur, c'est de vivre d'une manière qui l'honore. C'est une leçon d'humilité qui vaut, quelle que soit notre capacité de comprendre, il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse, s'écarter du mal, c'est l'intelligence. De ce chapitre semble se dégager une certaine ambiguïté de la science, ou tout au moins de l'être humain qui pratique la science. La science permet à l'être humain des réalisations incontestables qui ne dépendent pas, semble-t-il, de la foi ou de l'incroyance, de la vision du monde de ceux qui les entreprennent. On peut en trouver une confirmation dans les premiers maillons de l'histoire humaine, lorsque le développement des arts et des techniques est situé dans la généalogie de Caïn, alors que la seule invention signalée dans la lignée de Seth, c'est l'invocation du nom de Yahvé. Cependant, la science ne permet pas d'atteindre la sagesse, elle ne permet pas de fonder valablement la philosophie, la morale, la spiritualité. Mais pourtant, en s'attachant à observer le réel, à en comprendre les mécanismes, celui qui s'adonne à la recherche scientifique touche à une sagesse que Dieu lui-même a perçue et qui résulte de l'œuvre initiale de Dieu, versets 25b et 26, et de l'œuvre permanente de Dieu, verset 25a, pour que l'être humain, dans sa recherche, perçoive cette sagesse, est-il nécessaire qu'il connaisse Dieu, ou qu'il reconnaisse qu'il y a un Dieu à l'origine du monde? Le texte ne répond pas à cette question, puisque cette découverte, il la décrit avec Dieu comme sujet de la découverte. Il nous décrit Dieu découvrant la sagesse inscrite dans les phénomènes naturels. Il ne nous décrit pas l'être humain engagé dans la même découverte. Mais si cette sagesse est bien présente dans les phénomènes eux-mêmes, ce qui ressort assez clairement du texte, il doit exister une certaine forme d'objectivité, de neutralité. Même celui qui ignore ou nie qu'il y ait un Dieu derrière l'ordre du monde ne peut que reconnaître cet ordre s'il interroge le réel avec une certaine impartialité. Peut-être là ce que je compte sans l'aveuglement volontaire, mais de toute façon le sujet va être encore débattu au cours de cette journée. Je terminerai simplement en rappelant que la sagesse vétérotestamentaire tient à nous rappeler, à nous ramener toujours, et dans chacun de ses ouvrages, qu'il s'agit du livre des Proverbes, du livre de Job, du livre de l'Ecclésiaste, à nous ramener toujours au principe fondateur de la crainte du Seigneur.